Bienvenue au Polysécur épisode PME, je suis accompagné de Marie-Ève.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, toi?
Oui.
Aujourd'hui, on va parler de la place de la cybersécurité et, dans le fond, un peu le DPO aussi, le niveau de la protection des renseignements personnels dans l'organisation. De qui doit relever cette fonction-là, où on doit la placer justement pour qu'elle ait la meilleure efficacité et le meilleur rendement pour tout le monde. Je vais te laisser amorcer avec ça.
Oui, effectivement, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que avec la loi 25 qui est en vigueur, ben, les PME doivent s'organiser plus en cybersécurité et en protection des renseignements personnels. Puis, ça a pu amener son lot de questions là, à savoir qui est responsable de quoi dans les organisations selon la taille. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder pour pouvoir donner les responsabilités aux bonnes personnes là, selon les organisations.
Ouais, pour quel maximum d'efficacité de ces rôles-là, c'est d'ailleurs justement la loi 25 au Québec est un initiateur de cette réflexion-là. Justement, on oblige les organisations à émettre un certain nombre d'éléments en cybersécurité pour protéger les renseignements personnels. Donc de là, ce rôle-là, il va y avoir le rôle de la personne qui est responsable de la PRP. Si elle n'a pas de nommé, c'est le plus haut dirigeant. S'il y en a un qui est nommé, à ce moment-là, c'est cette personne-là qui devient responsable de cette fonction-là. La façon que la loi est faite ou la façon qu'on l'applique, il y a une énorme synergie qui doit être faite avec la cybersécurité. Donc, d'où l'importance de savoir où elle se situe dans l'organisation et comment le DPO, s'il n'est pas le dirigeant le plus élevé de l'organisation, où il doit se situer justement pour arriver à une conformité, justement, pour avoir de mauvaises surprises.
Et puis, ça amène. On pourrait commencer peut-être par discuter un petit peu de la différence entre le responsable de la cybersécurité et le responsable de la protection des renseignements personnels. Bon, c'est sûr que dans les petites organisations, très, très petites, là, de moins de 10 employés, là, c'est sûr que les chapeaux se multiplient avec très peu de personnes, mais c'est quand même important, je pense, qu'on explore un peu la différence entre les deux.
Oui, tout à fait. Dans les très petites organisations, je ne sais pas comment on peut faire matérialiser cet élément-là. Je ne m'y connais pas assez à savoir si on est capable de le déléguer à l'extérieur de l'organisation, comme on voit généralement, je pense, en Europe. Cela dit, c'est le responsable de la PRP, ou en tout cas le DPO maintenant, est la personne qui porte le chapeau légal, qui doit assurer une forme de conformité au niveau du cadre légal et des responsabilités qui sont associées à ça. Et la personne en cyber est généralement la personne qui est là pour mettre les moyens en place pour réussir à atteindre l'élément de conformité à la PRP. Donc, ces deux personnes-là doivent travailler en synergie. Souvent, ils vont se retrouver dans un cas d'une petite PME, probablement la même personne, ou probablement même sous-traité à la même personne aussi également. Donc, justement, de se retrouver dans cette concentration-là. Mais il demeure que, de point de vue théorique, c'est deux rôles distincts, dont un est porteur de la conformité, l'autre est le porteur de l'atteinte des mesures pour atteindre la conformité.
Dans cette logique-là, si on a une personne qui s'assure d'être conforme, l'autre qui s'assure de mettre les moyens en place, est-ce que ces rôles-là pourraient avoir un lien hiérarchique dans le sens où est-ce que le responsable de la cybersécurité pourrait relever de la personne responsable des renseignements personnels ou on se trouverait en conflit?
C'est une très bonne question. Moi, je voyais plus comme sur un pied d'égalité. Si on parle d'un point de vue d'une PME suffisamment grosse pour avoir les deux rôles à l'intérieur de celle-ci, normalement, on voit ça dans deux personnes qui relèvent du même plus haut dirigeant généralement. Tout dépendant de la nature des organisations. Souvent, la cybersécurité, on va la retrouver plus au niveau des TI. Ce qui, à mon sens, est une erreur en soi, puisque la cybersécurité dépasse largement et ne peut pas contrôler, dans ce cas-ci, le groupe qui est en opposition. Dans de très, très grandes organisations, on va trouver un groupe de conformité au niveau de cybersécurité et un groupe des opérations. Le groupe des opérations se retrouve avec les TI. C'est plus normal, mais dans le cas où il y a de la conformité. Fait que si on prend ce modèle-là, on le met au niveau de la PRP, ben c'est normal que celui qui demande les exigences ne soit pas la même personne si possible et que son vis-à-vis ne soit pas sous lui ou soit vraiment à côté pour qu'un puisse vérifier l'autre et s'assurer, se challenger si on veut, point de vue organisationnel.
Oh, c'est intéressant. Puis, si on est dans une petite organisation où ce que on n'a pas le choix d'avoir la même personne avec ces deux chapeaux-là, c'est quoi les choses dont on doit faire attention? C'est quoi les biais qu'il peut avoir ou qui, qu'il faut essayer d'être le plus vigilant possible si on a ces deux chapeaux-là à l'intérieur d'une organisation?
Là, on n'a pas de contrepoids. C'est-à-dire que la personne qui met en place et la personne qui vérifie, à ce moment-là, on se trouve dans un contexte où c'est plus difficile de s'assurer qu'on a des mesures de qualité qui atteignent les exigences de la loi. On ne peut pas dire que la personne est incompétente, mais comme elle est elle-même se vérifie elle-même son travail, bien, elle va présumer que son travail est naturellement de qualité. Donc, même si elle n'est pas capable de se challenger facilement avec quelqu'un d'autre de l'organisation, justement, pour cheminer. D'où je préfère le modèle de synergie où la PRP et la cyber travaillent en coopération pour avoir l'objectif, mais la PRP s'assure que la cyber pose des bonnes actions pour arriver aux objectifs. Et de l'autre côté, la cyber se sent peut-être, on va dire, surveillée jusqu'à un certain point, donc va faire un effort particulier ou un effort un peu plus grand que si elle se répondait à elle-même. Là.
Donc, dans cette situation-là, une solution à ça, ça pourrait être de demander à une firme externe pour faire des audits ou valider qu'est-ce qu'on fait, on est conforme, puis qu'on a un œil externe qui vient valider ce qu'on fait.
Oui, c'est un peu sous le modèle des vérificateurs externes qui sont exigés par les compagnies, pour les compagnies qui sont en bourse, par exemple, justement, s'assurer que les contrôles à l'intérieur de l'entreprise sont corrects. Là, on parle de très grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Mais d'avoir cet œil externe-là, dans ce cas-ci, il est mandaté justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de malversation. Il y a le cas de Enron qui maintenant fait tristement l'histoire, où il y a eu justement certains problèmes de cette nature-là, où il y avait des conflits. Entre les conflits ou des accointances entre la haute direction et les vérificateurs externes, ce qui a amené un problème qu'on connaît maintenant. Donc, cette trop grande proximité-là amène nécessairement à des problèmes. Donc, de se demander à une compagnie externe de venir nous vérifier. En cyber, on est habitué parce que généralement, on va demander souvent des compagnies externes de venir vérifier la sécurité des systèmes qu'on a déployés et qu'on met en place justement pour s'assurer qu'on atteint un niveau suffisant de sécurité. Donc, ça fait partie des us et coutumes. PRP, j'imagine que ce n'est pas dans les us et coutumes de faire appel à ce genre de firme externe-là. Mais dans les cas de petites PME, il est possible de faire affaire avec des compagnies qui sous-louent, si on veut, une compétence de CISO ou de responsable de cybersécurité qui, à ce moment-là, accompagne plusieurs petites PME, justement pour les aider à mettre en place ces moyens et justement de faire face aux DPO puis de genre ce challenge-là qui est posé entre les deux rôles pour arriver à une situation qui se rapproche le plus possible de la perfection dans ce cas-ci, là, même si on ne peut pas l'atteindre.
Là. C'est très intéressant. Là. C'est une belle nuance. Merci de l'avoir éclairci. Si on prend la cybersécurité seulement, moi, mon expérience en entreprise, là, j'ai plus une expérience en ressources humaines, mais bon, ben on se questionnait au niveau organisationnel, bon, est-ce que la qualité devrait dépendre de la production? Parce que est-ce qu'on peut prendre des bonnes décisions de qualité en ayant toute la pression de la production? Donc, je fais un peu un parallèle avec la cybersécurité dans le sens où tu le mentionnais un peu tantôt, tu sais, c'est un enjeu que la cybersécurité relève des TI. J'aimerais comprendre peut-être un petit peu plus les implications de cet enjeu-là.
Oui, parce qu'on se retrouve dans un contexte où la cybersécurité vient à mettre des exigences qui doivent être remplies par les TI. Et si la cyber est subordonnée aux TI, bien, on se retrouve être un sous-groupe dans un grand groupe à qui on impose des exigences et qui souvent vont être en contradiction avec la vitesse de livraison, avec la fluidité des opérations, avec ce genre de choses-là. Donc, on se retrouve être en conflit permanent avec à l'intérieur de son propre groupe. Donc, de là, c'est plus facile pour l'organisation de dire « Non, mais je m'en fous de la sécurité parce que ça m'embête. » Puis c'est ce qu'on voit souvent dans les organisations où la cyber est vraiment cachée en dessous des TI. Puis c'était un des énormes problèmes d'ailleurs avant. Maintenant, c'est moins vrai. Parce que le rôle a pris une ampleur différente, même s'il est à travers les TI, il est soit directement en relais du plus haut dirigeant de TI ou se place dans l'organisation où les exigences sont déposées. Et ensuite, les TI viennent à les réaliser. Et c'est plus la cyber qui réalise. Puis ça aussi, c'est une erreur dans le temps où la cyber réalisait des choses. La cyber ne réalise pas autre que les opérations, mais les opérations servent de surveillance, ne déploient pas, ne mettent pas en place. Ils ne font que piloter leur système de surveillance ou les différents mécanismes. Il demeure que c'est toujours les gens TI qui pilotent les systèmes, qui gèrent et contrôlent les systèmes. Donc, dans un modèle comme ça, quand que la cyber n'a pas d'accès dans les systèmes, elle est dépendante de l'autre. Donc, on se retrouve dans le même modèle qu'avec le PRP puis le cyber, c'est-à-dire que tu as les exigences qui sont émises par la cyber et laquelle les TI sont responsables de déployer et la cyber vérifie que les TI ont correctement mis les éléments. Quand tu mentionnes en qualité puis production, ben tu peux pas, à mon sens, avoir les deux dans le même groupe parce que si on le retrouve avec des objectifs opposés dans un même groupe et c'est la tête qui va décider. Donc, si la tête est opérationnelle, ben la qualité n'aura pas la capacité de faire valoir le côté essentiel quand elle va être à côté comme un engin d'exigence et de vérification qui va s'assurer que les opérations le mettent. Et de toute façon, dans l'absolu, c'est pas les voir comme des opposés, mais les voir comme des collaborateurs. C'est aussi un des problèmes qu'on voit en cyber où historiquement, les gens en cyber ont tendance à se mettre en opposition face aux autres, à être le fameux département du non. Et c'est pas dans cette structure-là qu'on va être capable de collaborer avec les TI, mais c'est vraiment d'arriver dans un contexte de dialogue, comme avec le DPO puis le PRP puis la cyber, on est en dialogue justement pour arriver à atteindre le meilleur objectif avec les meilleurs moyens possibles.
C'est sûr, je comprends que si bon la cybersécurité relève des TI, ben peu importe ce que la cybersécurité dit, le pouvoir hiérarchique reste aux TI, puis eux, ils ont des objectifs de performance, de livrer un service et tout ça, donc je comprends que c'est plus difficile. Puis si on le prend à l'inverse, est-ce que les TI pourraient relever du responsable de la cybersécurité?
C'est une drôle d'image parce que j'imagine qu'il y aura bien des vieux de la vieille en cyber qui aimeraient ça. Puis à la limite, il y aurait peut-être même des fois, j'en connais certains qui auraient peut-être un petit goût de vengeance en étant dans cette situation-là. Parce que certains, dont les vieux de la vieille, certains sont amers du passage plus difficile en cyber parce que ça n'a pas toujours été comme ça l'est maintenant. À mon sens, ça se peut pas de ce modèle-là non plus, autant que le modèle TI cyber et vient visser la capacité de cyber de jouer son plein rôle, c'est-à-dire de mettre d'exigences, de mettre des choses en place et de vérifier que ça atteint les objectifs qui sont définis. Autant si on est dans le modèle inverse, ben là, on se retrouve avec une tête qui est très contraignante avec des gens qui veulent déployer rapidement. Donc, on va se retrouver avec une dualité qui va causer des problèmes inverses. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire un immobilisme très grand, probablement une trop grande démarche de vérification et ainsi de suite. Donc, on vient transformer le fardeau, mais complètement à l'opposé. Donc, on ne règle pas le problème. On crée un autre type de problème à ce moment-là.
Oui, c'est ça. On se ramasse avec un rôle contradictoire qui peut pas, qui devra sacrifier l'un dans tous les cas pour arriver à l'autre. Puis il y a comme aucune solution gagnante là.
Non, absolument pas, parce que autant les objectifs de la cyber puis des TI ne sont pas alignés au sens où c'est pas la même chose. Les TI veulent livrer un système qui fonctionne. La cyber veut livrer un système qui est sécuritaire. Et bon, certaines mauvaises langues pourraient dire qu'un système sécuritaire, c'est un ordinateur enterré dans ton jardin, ce qui n'est pas faux. Cependant, il faut arriver au contexte où il faut être capable d'arriver à un point central où le système fonctionne avec un niveau de sécurité suffisant. Et si on met justement la tête de la cyber à la tête, ben, on ne sera plus dans le suffisant, on va être dans l'extrême probablement très rapidement. Et le système l'entreprise va devenir, ou les TI vont devenir de l'immobilisme. Puis déjà que je constate qu'il y a beaucoup d'immobilisme dans les TI en général à l'heure actuelle pour différentes raisons. Si on y rajoute une tête de cyber à ça, c'est fini, on ne bouge plus, on est les deux pieds dans le ciment. Là. Parce que la priorité, ça va devenir d'être sécuritaire avant d'avoir un système qui est livré. Et quand on pourra arriver à une situation, comme je mentionnais, intermédiaire, ou un système qui est suffisamment sécuritaire pour les données qu'on manipule à l'intérieur de celui-ci. Là.
OK. Donc, c'est si je comprends bien, si on veut avoir une dynamique saine où ce qu'on arrive à faire, à prendre des actions qui sont, on pèse le pour et les contre, on arrive à des compromis entre, je veux pas, l'idéal cyber et l'idéal production, ben, il faudrait avoir une équipe de direction où ce que, autour de la table, il y a le responsable TI, il y a le responsable de la cybersécurité, puis il y a le dirigeant pour supporter tout ça, mettons.
Oui, en quelque sorte, c'est cette espèce de tension-là qu'entre la cyber et les TI est très saine, au sens où on arrive toujours à une situation d'équilibre. plus ou moins, là, tout dépendant, là, rien n'est parfait, mais beaucoup plus à l'équilibre en termes d'atteindre des objectifs des deux groupes à ce moment-là, au lieu d'un soit subordonné à l'autre, et donc un impose à l'autre, c'est sa façon de voir, un peu comme le DPO va arriver aussi, va te positionner, puis en se mettant en forme de tension face à la cyber, par exemple, à ce moment-là, on va trouver être capable d'arriver à l'équilibre et de ne pas aller dans l'excès de conformité, parce qu'on peut faire de l'excès de conformité, puis ça l'arrête tout, et d'arriver à un niveau qui est conforme, mais qui n'est pas excessif et qui permet à l'entreprise de continuer à fonctionner, à être continuer à être rentable, mais continuer à faire sa mission aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Puis je sais que les gens en cyber ont beaucoup oublié de faire le lien, de connaître les affaires. De ce que je peux voir, des DPO, ils ont un peu le même problème. Ils ont tendance à faire fi que l'entreprise ne vit pas pour la vie privée, mais vit dans un écosystème où la vie privée fait partie de l'écosystème. Mais elle n'est pas le moteur principal qui permet les entrées d'argent pour la plupart des entreprises.
Ah, je comprends bien, là. Puis c'est une réalité que j'ai vécu beaucoup aussi parce que dans ma carrière en ressources humaines, les ressources humaines, c'est un coût. Là, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça l'a changé, là. C'est sûr que ça l'a beaucoup évolué. Puis les employeurs, ils ont mis ça de l'avant. Mais avant tout un département de coût. Donc, il ne faut pas oublier que malgré que toutes nos idées de grandeur, de bonheur des humains au travail, il fallait quand même faire de la production. Il faut rendre un service. Il faut faire de l'argent pour après ça réinvestir, là. Fait que c'est sûr que ces idées-là qui prennent ça en compte, ils passent beaucoup mieux que des fois les petites idées de licorne qui sont, somme toute, sûrement très bonnes, mais des fois pas trop réalistes là, dans le contexte.
Ben effectivement, puis c'est ça, les exemples que je mentionne sont valides dans tous les domaines. C'est cette dualité-là ou cette tension-là entre plusieurs départements amène toujours de ramener à l'équilibre pour arriver à l'objectif et à la mission de l'entreprise ou du ministère dans lequel on se situe, justement, de toujours se situer et de ne pas faire qu'une des forces soit plus importante que les autres, un au détriment des autres. Et l'exemple de la cyber au-dessus des TI, ben ça va être au détriment des TI à ce moment-là. Et s'ils sont un, l'inverse, c'est la même chose, ça va être au détriment de la cyber. Puis on l'a vécu. L'histoire nous le montre bien que quand la cyber est subordonnée au TI, ben c'est beaucoup moins intéressant de le voir. Tout dépendant de l'envergure des organisations, il peut y avoir des zones de reddition de compte dans lesquelles on va retrouver de la cyber ou dans la gestion de programme, on a des zones comme ça organisationnelles où la cyber peut atterrir et n'est pas directement avec les opérations de TI à ce moment-là, est éloigné, ce qui permet justement d'avoir une certaine autonomie, un certain regard sur ça et justement de pouvoir manœuvrer sainement à travers tout ça. Puis de toujours encore là, on vient toujours établir des ponts et les collaborateurs, on n'est pas dans un vase clos, on revient toujours à ça. Si on revient au DPO, c'est la même chose. Les exigences peu réduire de la loi 25, si on prend cet exemple-là, ou comme la RGPD l'a été en Europe. C'est bien, c'est pas nécessairement des cases à cocher aussi facilement que ça. Il faut l'adapter à notre organisation aussi. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Donc, cette adaptation-là, il faut connaître comment l'entreprise fonctionne. Fait qu'on ne peut pas s'improviser, puis on ne peut pas appliquer une recette qu'on a trouvée sans l'adapter à notre réalité, l'adapter à notre univers, l'adapter à comment notre entreprise fonctionne, parce qu'il n'y a pas de recette unique pour qu'on pourrait qualifier une conformité ou une certaine conformité à la loi 25.
Et effectivement, ça me donne l'opportunité de bifurquer un petit peu plus vers la protection des renseignements personnels. On a couvert un peu le volet cybersécurité en organisation, mais le volet protection des renseignements personnels, c'est sûr qu'il y a un cadre un peu plus normé à cause de la loi 25, mais en même temps, il y a quand même aussi beaucoup de latitude aux organisations pour exécuter tous ces travaux-là. Puis, j'ai des collègues, des anciens collègues RH qui me contactent puis qui se ramassent avec la tâche de la loi 25 qui me disent que c'est ça, c'est pourquoi c'est RH. Donc, ça me dit que certaines organisations qui sont un peu perdues aussi dans tout ça, la protection des renseignements personnels, ça devrait être la responsabilité de qui dans les organisations?
Oui, ben c'est ça. Là, quand tu m'as raconté le cas des RH qui avait la conformité à la loi 25, j'avais trouvé ça très drôle parce que pour moi, ça me fait un non-sens. À la limite, je comprends qu'on mette ça sur le dos de la cyber parce que historiquement, on était responsable de la triade, là, disponibilité intégrité et confidentialité. Donc, dans confidentialité, nous, on avait cette forme-là sous notre regard et on improvisait un peu pour faire ce genre de choses-là. Dans lequel cas, on est vraiment le responsable du moyen pour atteindre la confidentialité. On n'est pas nous qui déterminons la confidentialité. Donc, ça, c'est un petit défi. Je trouve ça très drôle, les RH. C'est un peu fascinant d'avoir mis ça là. Clairement, les entreprises se sont énormément dépourvues face à cette situation-là pour justement qu'ils doivent. Leur premier réflexe, c'est d'envoyer ça dans ton centre de coût, comme tu m'as dit tantôt. Là.
Oui, ça ne me surprend pas tant que ça parce que ben, c'est sûr que c'est un chiffre que j'avais à l'école, là, mais qu'il y avait un poste de ressources humaines par 100 employés à peu près, puis peut-être que ce nombre-là a évolué. Donc, sous toute réserve, là, allez pas chercher la source de ça, mais dans les petites organisations de 100 employés, bon, ben à 100 employés, ça nécessite un responsable RH, mais pour l'avoir vécu, il n'y a pas plus de responsable TI. Là, quand tu as besoin de quelqu'un pour embaucher, si tu n'as pas quelqu'un d'habitude pour t'occuper de ces systèmes, dépendant de la business, là. Fait que c'est sûr que l'équipe est très, très restreinte. Donc, on met le fardeau sur qui qu'on peut.
Oui, c'est sûr. Là, c'est une question d'opportunité puis de masse critique. Et encore là, en TI, la masse des gens en TI va varier selon la nature de l'entreprise. La référence que tu as, c'est en manufacturier. Ben, tu as très peu de TI en tant que tel en investissement. Tu vas un peu d'ingénieur pour les automates. Mais tu n'as pas vraiment un département TI d'une masse intéressante. Tu vas prendre plus de RH que tu vas avoir de gens en informatique qui vont travailler dans ces places-là, puis encore moins en cyber. Là, on va aller jusque-là. Donc, c'est sûr qu'ils vont se retrouver dépourvus. À la limite, j'aurais vu plus dans le cadre légal plus que RH, moi, mon premier réflexe, parce que c'est une loi. Fait que pour moi, une loi, c'est les avocats qui sont les experts dans ce domaine-là. Puis c'est eux qui ont la formation puis la connaissance pour l'interpréter le mieux possible. Mais de ton monde RH, c'est sûr que toi, tu le vois où on t'a lancé, on t'a balancé un paquet d'affaires, puis tu étais le département poubelle à la limite de ramasser tout ce que les autres ne voulaient pas.
Oui, mais là, c'était un peu plus glorieux que ça quand même. Là. Mais c'est sûr que c'était tentant d'en rajouter dans une cour qui est un petit peu plus grise que d'autres, là, disons. Mais bon, c'est quand même pas si pire que ça. Mais je peux comprendre. Mettons, il y a un directeur des opérations, il y a quelqu'un à paye, à comptabilité, puis le dirigeant, puis la personne au RH, ben, c'est pas évident. Puis les choix sont limités. Là.
Oui, ben c'est pour ça que de sous-traiter ce rôle-là devient facile. Comme on sous-traite le rôle en TI aussi. Là. Pour les petites entreprises, ça, il y a souvent des firmes spécialisées dans la prestation de services pour les PME, justement, qui vont accompagner et vont aider à faire ce genre de choses-là. Puis certaines de ces entreprises-là offrent un certain accompagnement à loi 25. Il faut aller avec prudence parce que, comme tout nouveau domaine, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. C'est pas tout le monde qui a la bonne connaissance de ce genre de choses-là. Fait informez-vous. Mais il y a ces firmes-là qui viennent accompagner, autant au niveau de TI, qui vont pouvoir aussi vous accompagner, loi 25, par exemple, dans lesquelles vous pouvez avoir ce genre de choses-là. Mais encore là, j'aime bien le modèle de ciseaux virtuels ou de temps partagé ou peu importe comment on le nomme parce que. C'est quand même un rôle au niveau cybersécurité, au-delà des opérations, qui est très stratégique dans l'organisation. Donc, on doit avoir une connaissance fine de l'organisation. On doit parler avec les hauts dirigeants. On doit être capable de comprendre. Comme en PRP, c'est la même chose. On doit se coller à ces gens-là pour comprendre la nature de l'organisation, comprendre l'information qu'on manipule et ensuite déployer et mettre en œuvre des moyens qui sont cohérents, qui vont être soit par les gens TI, l'équipe TI interne qui vont la mettre en place, ou encore là, avec un sous-traitant qui va aider justement la PME à mettre en œuvre ces différents éléments-là. Mais c'est de comprendre l'exemple de la rétention d'informations, on n'a plus de besoin, on faut l'acheter par exemple, si on ne fait pas ça. Il y a plein de petits éléments comme ça qui peuvent être justement partagés par un VCISO ou un VDPO qui peut venir vous accompagner justement pour vous aider à faire des quick wins. Puis là, on parle là, mais je présume qu'il n'y a pas tant de PME qui sont en conformité au moment où on enregistre. Puis bon, je pense pas que la commission d'accès va commencer à courir après tout le monde pour aller mettre des amendes. Mais il demeure que ce travail-là est quand même conçu, doit se faire malgré ça, puis de ne pas. Cachez-vous pas en dessous d'une roche, faites-le, s'il vous plaît. Mais avancez dans cette direction-là.
Ouais, ben, je peux comprendre aussi que les PME, ils n'ont pas beaucoup de ressources non plus pour aller à l'externe nécessairement. Puis, puis là, c'est vraiment une opinion spontanée, là, mais j'ai l'impression que si on met un peu ce chapeau-là à l'externe, ben, c'est comme si c'était pas tant notre problème, mais en même temps, il faut que ce soit un peu le problème de tout le monde. La PRP, j'ai l'impression que tout le monde doit quand même s'impliquer dans tout ce que c'est, pas dans la conformité, mais dans les procédures, tout ça. C'est un peu l'affaire de tout le monde quand même, sinon ça devient la peur de personne. Je sais pas si je fais du sens, là.
Oui, ben c'est un peu ça. On reprend peut-être des analogies de santé et sécurité au travail où la sûreté, la responsabilité de tout le monde, c'était vraiment un geste que chaque personne contribue à sa façon puis de son corps d'emploi à s'assurer que ça, les éléments arrivent. C'est sûr que c'est pas juste le haut responsable ou cette personne-là est responsable de la mise en application de la conformité. C'est pas elle qui, au jour le jour, va devoir vivre avec ça. Comme il y a des processus, puis toi, tu fais mieux avec ça, on voit en sûreté, où justement, il y a des processus quand on fait de l'entretien des machineries lourdes, il y a des stratégies, il y a des cadenas qui sont mis en place, il y a un paquet de petites choses comme ça qui ont été déployés avec le temps, suivant beaucoup d'accidents et de décès ou de gens gravement blessés à travers ces éléments-là qui ont été mis en place pour justement éviter que d'autres accidents regrettables se passent. Donc, qu'ils partent la machine pendant que la personne est dedans en train de faire l'entretien, on remet le courant quand les choses sont encore. Fait qu'il y a un paquet de panoplies de choses comme ça qui ont été développées qui, au niveau de la PRP, devraient sensiblement être la même chose. Fait que à terme, c'est de redescendre l'information vers le bas, c'est-à-dire que la haute direction doit sensibiliser et responsabiliser les gens de faire ce genre de choses-là. On parlait de rétention d'informations, mais c'est chaque département qui doit faire le ménage des informations qui n'ont plus de besoin. Si c'est plus bon, le jeter, de débarrasser l'information qui est plus bonne. C'est chaque département ou chaque individu qui doit faire attention de ne pas partager dans les courriels des informations dites personnelles, dans ce cas-ci, qui sont couverts par la loi. Ou, tu sais, dans d'autres cas, tu sais, les entreprises ont tous des informations sensibles qui sont confidentielles, mais pas PRP. Puis cette information-là mérite la même qualité de traitement que de l'information PRP. Donc, de ne pas le saler des clients, ça vaut très cher, il faut faire attention. Fait que tout le monde est responsable de son petit bloc de comment la PRP se matérialise dans l'entreprise.
Et puis, je peux comprendre aussi avec la loi 25 qui est très actuelle en ce moment, un peu la pression de vouloir mettre une personne responsable, puis on s'assure, tu sais, c'est le problème du légal, il va s'assurer qu'on soit conforme, puis c'est réglé, mais c'est quand même plus grand que ça, c'est quand même, ça touche quand même à la culture de l'entreprise, puis c'est là le défi de comment que c'est communiqué de la part de la direction, puis c'est quand même intéressant de le prendre en compte pour que justement, un peu comme la sécurité, la santé et sécurité au travail, ben ça devienne un petit peu l'affaire de tous, puis c'est une combinaison gagnante, même si au bout de la ligne, c'est l'avocat qui va valider si tout est beau, ben faut que tout le monde s'implique quand même.
Oui, tout à fait. Puis c'est là où l'importance de ces rôles-là, qu'ils soient le plus haut possible dans l'organisation, à mon avis, justement pour qu'on ait la capacité de la lecture avec la haute direction, puis c'est ce lien-là très fort. Mais à ce moment-là, c'est pas 300 personnes qu'on a besoin, ça va être une ou deux personnes qui vont dans l'emploi de l'entreprise qui vont naviguer là et qui ensuite vont élaborer des programmes, un pour que, en collaboration avec la cyber, par exemple, pour la mise en œuvre de moyens. Puis encore là, c'est même pas la cyber qui va mettre en place les moyens. La cyber va décoder l'exigence énoncée par la PRP en exigence technologique qui, l'équipe technologique va mettre en place au bout du compte. Fait encore là, il y a plusieurs intermédiaires. Mais de là, puis la même chose, l'équipe de cyber, c'est pas supposé des grosses équipes, mais de ces équipes-là, autres les opérations, vont juste s'assurer de communiquer le message vers le bas, de sensibiliser les gens et que, dans le fond, la sécurité, la cybersécurité, soit l'affaire de tous, comme la PRP devient l'affaire de tous. Fait que ces personnes-là ont ce rôle-là. Et d'où l'importance, un, d'être haut pour avoir l'autorité, diffuser le message vers le bas. Puis cette collaboration-là entre les différents parties, justement, pour que tout le monde soit à la table des grands. Et qu'à la table des grands, ils se partagent l'information, puis qu'il y a cette synergie, cette collaboration-là entre les différents groupes, ou dans des cas des plus petites PME, mais que le sous-traitant parle avec la très haute direction, justement, pour être capable, avec le dirigeant ou peu importe, pour redescendre l'information dans les équipes avec la bonne approche, la bonne façon. Mais ça vient toujours, il faut toujours que ça arrive d'en haut pour que ça descende vers le bas, puis justement que les bonnes décisions soient prises et qu'il n'y ait pas de raccourci qui soit pris. Donc, la culture, tranquillement, imbibe l'organisation dans le traitement de ces données, comme maintenant les entreprises font énormément attention à la santé et sécurité au travail, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 50 ou 100 ans, qui maintenant c'est imbibé dans la culture des organisations. Et c'est sûr, il y a encore des organisations négligentes, mais majoritairement maintenant, cette culture-là est imbibée. Puis les gens sur le terrain, puis je pense que tu peux probablement l'avoir constaté, sont interpellés et participent à cet élément-là où on passe d'un modèle, on impose la maudite règle à on fait partie de cette solution-là parce qu'avec le temps, on a réussi à éduquer les gens parce que ça a été pris par en haut puis ça a été redescendu vers le bas.
Ouais, tu as totalement raison. Là, j'ai eu des belles expériences de travail avec des gestionnaires là, avec la santé et sécurité au travail là, tellement à cœur que ça s'en devient une valeur puis une façon de vivre. Puis c'était beau à voir là, comment ça s'est déployé dans les actions de ces gestionnaires-là. Fait que c'est possible. C'est possible. Est-ce que ça sera aussi passionnant que la santé et sécurité au travail pour la protection des renseignements personnels? J'ose l'espérer. Mais seul le temps nous le dira.
C'est ça va devenir l'élément naturel des organisations. Puis ça y est, derrière l'importance de la personne qui est en haut, qui s'occupe de ça, de descendre, communiquer, vulgariser. C'est clairement vraiment rendu mon chose d'intérêt, justement, de réussir à expliquer correctement aux gens. Puis souhaitons qu'on en arrive à des niveaux de conscience dans cyber puis en PRP comme on atteint des niveaux de conscience en sûreté et en sécurité au travail. Là.
Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres biais dont on devrait se soucier là, en nommant les divers responsables de santé? Qu'est-ce que je dis là? Je suis repartie de la santé sécurité. Donc, sur les responsables pardon de la cybersécurité ou de la protection des renseignements personnels en entreprise qu'on n'aurait pas couvert.
Non, mais l'important, c'est de leur permettre d'avoir cette autonomie-là, leur capacité des rôles qui ne sont pas soumis à des rôles contraires, justement pour éviter des problèmes, et que ces gens-là viennent s'asseoir à la table des hauts gestionnaires pour communiquer et qu'ils puissent avoir ces échanges-là. Dans cette mesure-là, je pense qu'on a une recette gagnante. C'est sûr que c'est difficile de trouver, tout dépend de la taille de l'organisation, mais de se faire accompagner par des firmes externes. On en a beaucoup de très belles firmes au Québec. J'imagine qu'il y en a en France aussi de très bonnes firmes qui justement qui peuvent vous accompagner. Trouvez-en une avec qui vous êtes capable d'établir un lien de confiance qui vont vous prêter à temps partiel une personne justement pour venir vous appuyer. Mais cette personne-là prêtée est quand même relève de la plus haute personne de l'organisation justement pour lui donner la capacité d'intervenir et d'influencer la culture de l'organisation.
Merci beaucoup, Nicolas. Ça a répondu à beaucoup de mes interrogations. Je pense que le défi est grand, mais si les bonnes actions sont faites, le défi peut être relevé.
Tout à fait. Merci.
Merci.